Nous allons recommencer les débats. Merci aux intervenants de venir. La ville de Coimbra. Michael Fonseca. Boris Bélanger, notre adjoint de Montpellier, qui nous dira ses fonctions, qui nous intéressent beaucoup. Et Anne-Lise Roland, qui vous a écrit ce chef-d'œuvre, ce livre que vous avez sur la culture en centre-ville. Ça ne veut pas dire que c'est la culture dans toute la ville, c'est la culture en centre-ville. Alors, Alice, je vous laisse reprendre les débats et poser la première question à notre président, qu'on remercie d'être venu de si loin au Portugal.
Merci, merci en effet d'accepter la présidence de cet observatoire de la culture et de l'animation. Donc, c'est très bien, après le café, de parler de culture et de loisirs. Donc, nous nous apercevons que tous les sondages montrent l'importance de la culture pour les habitants et notamment les habitants du centre-ville. Quel est le regard que vous avez, que vous portez sur la culture dans les centres-villes ? Je crois qu'il y a une présentation.
Well, je veux parler en anglais, je préfère. So, good afternoon to everyone. I would like to thank Centre Ville en Mouvement for the invitation to coordinate this area of our observatory dedicated to culture and animation. Our municipality of Coimbra in Portugal, right in the center of Portugal, is delighted to work in this rich network that will promote good practices and sharing the excellent experiences that we can see all over Europe. Well, my presentation is about what we are doing in Coimbra in order to promote culture and animation as a way to dynamize and to revitalize the historical center of our city. Where we are, Coimbra is right in the center of Portugal, is one of the oldest cities of our country, is at less than 2 hours from two international airports, Porto and Lisbon, and we have excellent network and railway road and railway networks between the main points of our country, and for that reason we are strategically located. We have a good geographic location in our country. You can pass to the other, please. Well, some brief indicators about our city. Coimbra has a population of 141,000 inhabitants. We have the highest concentration of population in the center region of Portugal. We have the highest per cap purchasing power in that region, and we have many competitive advantages in national terms, like the affordable cost of living, our top-ranked public services, especially in education and in health. We have the oldest Portuguese university, one of the oldest in Europe, the well-known University of Coimbra, and we have also high standards of health, standards in terms of health, because we have a renowned and well-known central hospital with a good connection also with the university. In terms of higher education, we have one of the oldest universities, as I said. We have also a polytechnic institute, and each year we have some kind of 8,000 talents that are produced in our university and polytechnic institute that is able to go to the market of work. The other, please. Some other features of Coimbra. We have, as I said, the privileged location right in the center of Portugal. We are a very safe city, and we have also classified since 10 years ago as World Heritage by UNESCO. Our historical center was classified by UNESCO in 2013. And we have some reasons that made Coimbra one of the most exciting centers in terms of culture in Portugal. We are the third city in the country with the most live cultural events, and we have an excellent infrastructure, the Convento São Francisco, that is a point of not also but of cultural events, but also of corporate events. That is located right just near the river, and it deserves the visit. The other one, please. Well, in terms of our strategy in Coimbra, and that's the reason why we are so honored for assuming the coordination of this thematic area, is to revitalize the city center. As the other panels have debated, the city centers are facing some challenges that are connected with some fall in terms of commercial stores, in terms of also in inhabitants, and so our strategy in terms of a comprehensive development of our city put some higher investment in terms of cultural and events, and also to transform our city center in an attractive hub of development. For that, the municipality is fully committed with this mission, and we collaborate with local commerce, with cultural and social associations, as well as with residents in that zone of our city. And for that reasons, we are assuming that this area and this network with other European municipalities and cities sharing experiences is really crucial to achieve our goals. The other one, please. In terms of the main events that we are doing in our city, some examples: the arts and crafts fairs that wants to safeguarding the tangible and intangible cultural heritage of our city and the whole region, and that is a site in order to artisanal and artistic expressions live in the place, and these arts and crafts fairs occurs each month right in the center of city. The other one, please. The book fair has moved to the city center 2 years ago, and we want to in this book fair promote the Portuguese language on a global scale, and so we have in this book fair some events not only related to books but also with cultural events and cultural activity. The other one, please. We have also magic encounters in the city center with international magicians and street performances that also contributes to this animation in our city center. The other one, please. The summer vibes, as the name says, in the summer, with presentation of famous and with also famous and emergent bands and artists in the center of the city. And in this year, we will have the Epicentro Festival that will take place between June and September. That will connect cultural and artistic intervention in the buildings, in the streets, in the routes, and also in the monuments that are based on this area of the city, the downtown. Also, the medieval fair that wants to promote the historical heritage of our city, involving all the community and with historical recreations, as well as the other one, please, the municipal market. I want to highlight the municipal market because in this municipal market we want to share and to promote the links between a commercial perspective with cultural and social programming, and in our strategy, the municipal market, as the examples of the photo show, have been such a place for events like a beer festival, a competition of cycling and other events, joining cultural sports and other ways of living the city, and not only on this traditional perspective of a commercial site. Also in the city center, and that is the building of our municipality and the Santa Cruz Church, we promote also organizing festivities like video mapping. That was the video mapping that took place between 21st and 23rd of December, live music, street events, and other events. And I would also like to highlight this project at Baixa. Baixa is the nomination for our downtown. Baixa Coimbra is the lowest area of our city, and we achieved funds from European Union such a high point. That's some mistake in that value. The
oui. Si je peux me permettre, exactement, on a parlé. D'abord, ça nous donne envie de venir. Merci. Justement, ce que je voulais rebondir, c'est vous demander, en effet, les fonds européens, je vous les utilisez de manière conséquente. Et pour nous, et dans le cadre de cet observatoire, c'est important qu'on puisse travailler avec vous sur cette question et nous dire comment vous faites et comment vous arrivez à obtenir ces fonds européens. Est-ce que vous pouvez nous donner comme bon retour ou méthode, sans être trop long, mais c'est vraiment un sujet qui est important parce qu'on sait que la culture... ça a un coût, c'est pas forcément le premier des coûts, et en même temps, on en sait l'importance sur l'animation des centres-villes. Voilà. Donc, quelle est votre méthode pour obtenir ces fonds européens, et qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller ou nous donner comme petite information qui nous permettrait d'aller un peu plus vite?
We have some projects in terms of Urbac in the past. We are working in order to achieve more funds from that way. In this project, especially, is from the European funds, from Plan of Recovery and Resilience, and our goal is to transform downtown in an open air shopping center. There was the main goal is to create a new consumer relationship with the stores, and also to transform this downtown with a platform into a digital platform. That was I was saying that the amount that we achieved is not 2.6 but 1.24 million euros, the third amount in this project that is named Quartier Commercial Digital. And this at Baixa wants to change the relationship between between commerce and the consumers, And it's, I think it's a well achieved strategy because it shares also with this, with a local development association and also with an association of consumers and also of commercial stores in the right in the center. We are truly committed in this strategy in this project that has to be concluded since October 2025. But we are optimistic that is that can bring a new way of relationship between the consumer and the commerce in downtown city.
Merci. Alors on est parti au Portugal, on revient en France. Monsieur Bélanger, vous êtes maire adjoint au centre-ville et au patrimoine culturel pour la ville de Montpellier. Vous allez peut-être nous donner quelques actions concrètes réalisées dans le centre-ville de Montpellier et dans le cadre de sa politique culturelle.
Je trouve très intéressant le titre maire adjoint au centre-ville et à la politique culturelle, du moins à la...
Oui, alors c'est vrai que c'est souvent on a l'exemple de services qui sont en silo et je pense notamment au tourisme, au développement urbain qui sont séparés de la culture et du patrimoine et tout l'enjeu c'est de faire en sorte et ça c'est à l'équipe municipale de l'impulser malgré des délégations qui sont parfois justement le reflet de ces séparations de services, c'est de faire en sorte que il n'y a pas de frontières. Entre le tourisme, entre le commerce, entre la culture, le patrimoine, et de faire en sorte d'avancer ensemble. Et ça, c'est le véritable enjeu, effectivement, pour les centres-villes. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre invitation, et puis saluer effectivement le titre, c'est-à-dire mettre la culture dans l'observatoire. C'est évidemment très important parce que c'est souvent un angle mort et de le faire pas seulement sous l'aspect des festivités ou de l'événementiel mais vraiment de vouloir inscrire la culture et l'animation culturelle, le patrimoine culturel dans l'observatoire. À Montpellier, effectivement, la question de l'accessibilité à la culture, c'est tout d'abord le rendre accessible au centre-ville. Et le premier levier pour rendre accessible le centre-ville, développé par Michael Delafosse quand il est arrivé en fonction en 2020, c'est de faire la gratuité des transports pour les 500 000 habitants de la métropole de Montpellier. C'est-à-dire que on ne peut pas faire le musée gratuit sans rendre accessible le centre-ville. Et parfois, le ticket de transport peut représenter un obstacle. Là, on lève l'obstacle et on fait la gratuité inconditionnelle pour tous les habitants de la métropole. Ensuite, c'est l'élargissement du cœur de ville, faire en sorte que ça ne soit plus le centre-ville, ne soit plus le centre de la ville de Montpellier, mais le cœur de la métropole. C'est-à-dire que les villes de la métropole entretiennent, et c'est très bien, leur patrimoine, réhabilitent leur place de village, mais c'est donner envie aux habitants de la métropole de venir au centre-ville de Montpellier pour y trouver des outils culturels qu'ils n'ont pas nécessairement dans leur ville ou village. Donc ça, c'est très important d'avoir ce levier et de faciliter l'accès au centre-ville et à ses outils structurants. Alors, j'ai pour habitude, parce qu'on est, c'est vrai que Coimbra est sans doute parmi la ville universitaire la plus ancienne du monde, mais nous, à Montpellier, nous avons la plus ancienne faculté de médecine du monde. Et donc, j'ai une vision anatomique de la ville, c'est-à-dire que, effectivement, on a beaucoup pensé les flux pendant de nombreuses années, et c'est important de le faire. Il y a la question des flux, du sang, mais il y a la question aussi des places, des organes qui sont à faire vivre. Et les places, c'est un outil important dans la manière de dynamiser le centre-ville. On s'est beaucoup attaché au flux, l'idée de faire des places qui ne soient pas des obstacles, mais au contraire de faciliter leur traversée pour que les flux, notamment des chalands, puissent aller dans l'ensemble du centre piéton d'Alaville, c'est important et c'est pour ça qu'on souhaite élargir à nouveau et redevenir le plus grand centre piéton de France et d'Europe, parce que c'est un enjeu essentiel pour la dynamique commerciale, notamment de centre-ville. Alors la diapo suivante, je vais prendre l'exemple de la place de la Comédie, donc la place cœur de la métropole. Et donc cette place de la Comédie qu'on redéfinit pour la rendre ombragée, dans la mesure où pendant des années, effectivement, on s'est occupé des flux, notamment d'enterrer les voitures, voitures qui sont maintenant dans un tunnel, dans des parkings souterrains. Le problème, c'est que les places sont devenues du coup très minérales et très difficiles à vivre aujourd'hui à l'heure du réchauffement climatique. Et donc cette place de la Comédie, qui était devenue un îlot de chaleur, il fallait absolument permettre aux chalands de la traverser, puisque c'était devenu impossible avec 42 degrés de pouvoir la traverser. Et donc inviter les chalands à sortir de la galerie commerciale que nous avons à quelques centaines de mètres de la place de la Comédie, qui a engagé des gros moyens pour réhabiliter les commerces. Et donc il était important que face à un opérateur privé qui met 50 millions d'euros pour réhabiliter son centre commercial, que la puissance publique soit en mesure de mettre au moins le même montant pour réhabiliter son espace public et le cœur de la métropole. Alors je ne sais pas si on peut avoir la petite vidéo en bas à gauche, je ne sais pas s'il y a le lien, mais sinon c'est pas grave pour l'activer. Non mais revenez à la diapo d'avant. Donc l'idée c'est effectivement de végétaliser et de faire ce travail évidemment avec l'architecte des bâtiments de France, parce que renaturer les centres-villes en secteur patrimonial, c'est très compliqué, il faut engager des discussions, et donc c'est un travail qui a été fait avec évidemment l'architecte du bâtiment de France, et il faut saluer son courage, parce qu'aujourd'hui, réimplanter de la végétation sur des places qui ont des façades patrimoniales, ça nécessite nécessairement un vrai travail de concertation. Alors, diapo suivante, donc, cette place, effectivement, c'est un défi technique de pouvoir planter des arbres sur une surface minérale avec un parking dessous. Et c'est un défi qui a été relevé. C'est vrai que les arbres, quand vous les plantez en ville, ils ont un besoin à peu près de 15 mètres cubes pour pouvoir se développer. Et donc l'idée, c'était de faire en sorte que ces arbres, puisqu'ils sont dans un milieu contraint, c'est de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent se développer normalement. Et donc on a créé des fosses de 150 mètres cubes, donc vraiment de quoi permettre leur développement. C'est un vrai défi qui a été relevé, de pouvoir faire en sorte que ces 8 grands arbres puissent se développer, même si évidemment la canopée apparaîtra plus tard, mais en tout cas ça permet aux habitants, aux chalands, de traverser cette place dans de meilleures conditions, et puis avec le souci de la convivialité, de l'associabilité, et de faire en sorte que ce ne soit pas seulement les terrasses qui soient des lieux d'échange et de rencontre, mais aussi permettre de déployer un banc qu'on voit ici, un banc avec un jardin méditerranéen sur lequel il s'appuie, qui permettent du coup aux habitants de pouvoir s'y retrouver sans nécessairement s'installer aux terrasses des cafés, et puis avec le souci évidemment de faire en sorte que les enfants puissent planter et adopter les 50 000 arbres qui vont être plantés dans la ville.
Et les fosses, dites-nous quand même, vous avez percé dans le parking.
C'est ça.
Vous avez retiré des places de stationnement.
On a retiré des places de stationnement. Tout le niveau moins 1 est complètement redéfini, puisqu'il permet à la fois d'accueillir ces fosses qui sont immenses, mais aussi avec un hub de mobilité qui permettra de déployer du vélo du stationnement vélo, stationnement deux roues, pour éviter justement que ces flux, ces problèmes de flux de vélos, de trottinettes qu'on voit aujourd'hui dans nos centres-villes puissent être raccordés au parking souterrain. Et d'ailleurs, il y a aussi un tunnel en dessous la place de la Comédie. Et ce tunnel, nous avons supprimé le shunt, c'est-à-dire la voie de transit. Nous avons conservé le parking souterrain. Les voitures donc, peuvent s'y rendre. C'est un parking de destination, mais les voitures ne peuvent plus emprunter ce tunnel. À l'inverse, on met des vélos. C'est-à-dire qu'on va transformer le tunnel de la Comédie, sous la Comédie, en galerie cyclable, avec une intervention artistique dans cette galerie pour le rendre agréable et éviter que les vélos soient sur la place de la Comédie et gênent justement le flux piéton. Alors,
je peux juste vous demander la réaction des habitants, alors des citoyens, des commerçants, enfin, elle est comment, elle a été comment?
Alors, c'est important et c'est pour ça que cette photo, elle paraît anodine. Mais c'est très important de se plonger dans les archives et dans le patrimoine documentaire quand on veut faire un projet. Parce qu'il ne faut pas opposer l'avenir et le passé. Parfois, le passé peut nous aider à construire un projet. C'est le cas, par exemple, sur l'esplanade, qui est donc dans la continuité de la Comédie. On voit très bien sur cette photo-là que l'espace qu'on cherche à conquérir aujourd'hui sur l'esplanade et qui était obturé par des fontaines dont il est apparu qu'elles n'étaient pas patrimoniales, on retrouve finalement la grande perspective qu'on avait en 1900, et on permet, le projet en fin de compte permet de revenir finalement sur un existant tout en l'améliorant. Et donc, du coup, d'embarquer les habitants là-dedans, de proposer des innovations. Et c'est pour ça que les commerçants et les habitants ont été intéressés par le projet. C'est qu'ils s'appuyaient sur le passé. Ils ne tournaient pas le dos au passé, mais ils proposaient une nouvelle manière de lire le passé tout en innovant sur ce secteur-là. Et c'est très important de souligner aussi que la façon de faire la transformation permet aussi d'embarquer les habitants. C'est pourquoi dans le projet de Comédie Esplanade, toutes les façades du chantier ont été habillées de photos d'archives pour expliquer ce qu'était la place avant, comment elle avait évolué et quel était notre projet. Et du coup, le chantier lui-même est devenu acteur du changement. Et donc sur des centaines de mètres linéaires, on a déployé une exposition à ciel ouvert pour expliquer le passé et l'avenir et le projet. Donc ça, c'est une façon aussi de concerter qui a été obtenue avec les habitants et les commerçants à travers une façon participative. Si j'ai encore quelques instants pour déployer. Alors, du coup, demain, voilà ce que sera l'esplanade, donc dans le prolongement de la Comédie. C'est d'activer. Il y avait donc des anciens bassins qui avaient une quarantaine d'années, qui n'étaient pas du tout patrimoniaux. Et on dessine des fontaines, des fontaines sèches, une porte d'entrée sur l'esplanade qui donne envie, du coup, aux enfants de pouvoir y jouer. C'est des fontaines sèches, donc c'est cycle fermé. Pas de déperdition d'eau, et surtout on redonne envie aux enfants de pouvoir être actifs sur ce lieu. C'est très important de le penser, ces lieux à hauteur d'enfants, tel qu'on le prévoit dans le projet, et d'activer, on peut passer à la diapo suivante, d'activer, alors l'importance aussi à signaler de l'éclairage. Souvent c'est quelque chose qu'on peut ne pas penser dans un projet. Nous, on a pensé tout de suite à l'éclairage et notamment à la manière d'éclairer les façades patrimoniales des outils structurants. On a l'Opéra Comédie, le musée FAB, notre musée d'art, le Corum, le Palais des Congrès et d'autres outils culturels. L'importance de souligner les façades grâce à l'éclairage. Donc ça, c'est très important de penser l'éclairage aussi dans le projet. Photo suivante. Et donc, du coup, l'idée, c'est de relier ces outils dont je parlais, ces lieux culturels importants. et de faire en sorte que cet espace devienne un lieu accueillant pour les enfants, les familles, un endroit où on peut respirer, un endroit où on peut profiter des animations culturelles, et que ce soit pas seulement un lieu destiné à desservir les lieux culturels, mais aussi un lieu où on peut se poser. La photo suivante, c'est important de traiter aussi l'espace public et les lieux culturels dans l'espace public. Donc j'ai parlé des outils, des équipements culturels. Il y a des équipements qu'on aurait pu, je pense à ce kiosque qui est pourtant classé architecture contemporaine remarquable, mais qui est un des premiers exemples en béton armé qui date du siècle d'avant, qui a très mal vieilli et qu'on aurait pu détruire. Au contraire, on le restaure, on le réhabilite et on permet de déployer la musique et de faire en sorte que l'Orchestre National de Montpellier puisse y jouer à nouveau. Et ça, c'est important de faire en sorte que la culture aussi habite l'espace public. Et photo suivante, l'importance aussi de faire en sorte que cette esplanade devienne un lieu non seulement pour desservir donc les équipements, mais aussi un lieu qui accueille des arts, des œuvres d'art dans tout le parc, et donc on va créer, implanter de nouvelles œuvres d'art pour faire en sorte qu'il y ait une déambulation dans ce parc qui ne soit pas seulement réservé aux usagers des équipements culturels, mais que le parc en lui-même soit un lieu de destination où on puisse, les enfants circuler au milieu d'œuvres d'art, et sans oublier évidemment une aire de jeu pour compléter l'ensemble de ces outils nécessaires pour dynamiser un centre-ville.
Merci, merci bien. En effet, vous avez un espace très intéressant de travail. Alors, on va peut-être pouvoir aller y lire un peu, parce que ce matin, donc, on a tous reçu un livre sur la culture. Merci à Anne-Lise Roland d'être là. Donc, vous avez écrit ce livre. Vous avez commencé par parler de la France. Voilà. Vous parlez de l'exception culturelle, ou plutôt de la culture d'exception. Pourquoi ?
Alors, parce que ça pose le sujet d'entrée de jeu, parce que ça impose une évidence, en quelque sorte, et je l'expliquerai pourquoi. Et parce que c'est vrai qu'il y a une subtilité, mais c'est ça aussi la richesse de la langue française, et donc de notre culture, il y a une subtilité, on utilise les mêmes mots, mais juste inversés, mais ça ne veut pas dire la même chose. Alors, l'exception culturelle, pour moi, c'est le rapport que l'on a à la culture, donc c'est exception dans le sens unicité. On a quand même en France un rapport absolument unique à la culture pour notre pays, mais aussi dans l'imaginaire collectif mondial, de par la richesse de notre histoire, de par la richesse de notre patrimoine. On a quand même 44 000 monuments classés, de par la richesse de nos infrastructures culturelles qui sont exceptionnelles et colossales. Il y a 8 000 musées, il y a 5 000 cinémas, 16 000 bibliothèques. Donc c'est vraiment un parc absolument très très grand. Et puis on a une forme de mythe qui est quand même assez particulière à la France, justement ces grands monuments, nos grands artistes qui sont presque érigés au titre de monstres sacrés. Alors je pense à la Tour Eiffel, je pense à Notre-Dame, je pense peut-être à des parties plus sombres de notre histoire, mais Marie-Antoinette et la guillotine, c'est quelque chose que nos amis européens connaissent également, et ça va bien au-delà de l'Europe. Donc c'est à la fois effectivement toute cette richesse qui fait qu'on a vraiment une sorte d'unicité dans notre rapport à la culture en France. Et puis dans l'autre sens, culture d'exception, c'est l'exception dans le sens excellence. Je crois que, on nous jette un peu des fleurs, mais en même temps, remettons à César ce qui appartient à César. Dans tous les domaines transversaux qui touchent la culture, c'est vrai qu'on a une forme d'excellence reconnue. On a parmi les plus grands écrivains, les plus grands peintres, et même sur des sujets un peu plus modernes, sur la mode par exemple, on a aussi des couturiers de renom. On a des grands artistes cuisiniers, parce que c'est un art, la cuisine, et on l'évoquera plus tard dans le petit livre. Et donc c'est cette forme d'excellence, cet alliage d'excellence et d'exception qui font de la culture française, qui a une sorte d'aura un peu magique autour de ça. Donc voilà, c'était juste pour commencer sur un questionnement, parce que la culture c'est aussi fait pour questionner. D'entrée de jeu, on pose le sujet.
J'imagine qu'en écrivant ce livre, vous avez rencontré beaucoup de personnes, vous avez fait un ensemble d'interviews. Quelle est la réflexion en synthèse que vous amène l'ensemble de ces interviews et ces personnes qui vous ont parlé de la culture et de leur façon de se positionner et certainement de définir la culture?
Oui, alors nous on l'a effectivement abordé sous l'angle des festivals, donc je vais répondre à votre question, mais c'est un angle un petit peu particulier. Mais c'est vrai parce que les festivals, enfin la culture, ça apporte tellement de choses aux habitants, à nos territoires, à nos villes. Et les festivals sont une sorte de concentré de tout ça. Ça parle de mixité, ça parle de partage, ça parle de lien social, ça parle d'intégration. Il y a une sorte d'énergie, il y a un vivier absolument étourdissant autour de ça. Donc on l'a abordé par le biais des festivals, où il y a aussi un côté très éclectique. On a choisi 14 festivals, mais sur des villes de tailles différentes, même des petits villages de 1300 habitants qui ont fait des choses absolument sublimes en termes de festivals avec plus de 300 000 visiteurs. En termes de thématiques, on est très éclectique aussi. Et tout ça, pour répondre à la question, je m'égare. Pour vous dire qu'en fait, le maître mot, pour moi, c'était la passion. Et c'est vrai que c'est impressionnant de voir la passion qui est mise pour justement que ces artistes puissent s'exprimer. Et notamment en termes de festival, il y avait vraiment ce côté, oui, tout le monde se met à l'œuvre avec passion, avec persévérance. Et c'est un des maîtres mots pour la réussite d'un festival, d'ailleurs. Il y a une sorte de recette miracle que toutes les personnes que j'ai pu interroger m'ont révélé. C'est quand il y a la passion, donc c'est quelqu'un qui amène le sujet avec cette passion et cette persévérance. Quand on a des élus à côté qui sont à l'écoute et qui mettent en place effectivement des moyens financiers ou logistiques pour y répondre, et quand on a aussi une exigence de qualité, généralement la mayonnaise prend. Et quel que soit le festival, quelle que soit la thématique, et tout est prétexte à festival, hein, on parle justement d'un savoir-faire, d'un produit du terroir, tout, absolument tout est prétexte à festival, donc il n'y a pas d'excuse pour ne pas se lancer. Mais voilà, c'est...
Merci. Non, mais c'est une définition large, la culture, je suis d'accord. Puis après, on a chacun sa personnalité et ses goûts. Mais en tout cas, merci. Et puis cet observatoire va certainement permettre justement d'aborder peut-être toute la définition de la culture dans sa globalité et tout ce qu'elle peut amener. Puis le rôle de la collectivité, mais pas que. Parce
oui,
il
n'y
a pas que la mairie ou les collectivités territoriales qui ont un rôle à jouer là-dedans.
Non, en début de livre, on fait un petit panorama éclair un peu sur les chiffres clés et justement les grandes tendances. Et c'est vrai qu'il faut parler des collectivités et de tous ces élus qui œuvrent énormément pour mettre en place énormément d'initiatives. Alors, on en a abordé quelques-unes avant les festivals, mais c'est effectivement une richesse absolument impressionnante.
Juste, je vais rajouter que pour nous qui travaillons beaucoup sur l'attractivité des centres-villes, c'est exceptionnel. Et puis, ça permet parfois des petites villes d'être très connues. Parce qu'ils ont un festival, donc voilà, c'est... Le rayonnement de la ville et les festivals de marionnettes, là, voilà.
Ouais, c'est souvent, effectivement, on ne pensait pas au début que ça pourrait avoir un tel impact, et le rayonnement va bien au-delà de la ville en question, il peut même traverser les frontières, parce qu'on a quelques festivals français qui sont connus à l'international. Et c'est vrai que ça apporte une vraie attractivité, un vrai rayonnement, une grande fierté des habitants. Ça, c'est une particularité aussi sur les festivals, parce qu'il y a plein d'événements culturels qui vont permettre d'élever l'âme, de nous nourrir. Mais les festivals, les habitants se l'approprient et ça représente une très grande fierté. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important pour eux et pour leur épanouissement.
Et je donnerai un dernier exemple que j'ai découvert. C'est la médecine et la culture.
Oui. Alors, c'est vrai que moi, j'ai été sidérée de voir que... Alors, quand on dit que la culture, ça sublime nos quotidiens et ça élève notre âme jusqu'à la soigner, et j'étais sidérée de voir qu'aujourd'hui et de plus en plus sont prescrites ces fameuses ordonnances muséales. Je trouve le terme déjà très joli. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, et des preuves à l'appui, que ça pouvait permettre de soigner des patients atteints de pathologies, qu'elles soient physiques ou mentales, mais que ça pouvait vraiment permettre d'apaiser leurs maux. Il y a d'ailleurs le musée des Beaux-Arts de Lille qui a reçu plus de 1400 personnes du CHU l'année dernière. Et il y a un vrai, retour positif. Donc c'est absolument quand même sensationnel et hallucinant de voir à quel point ça peut entrer au cœur de nos âmes et de nos corps aussi, jusqu'à les soigner, effectivement.
Merci beaucoup, Anne-Lise. Merci à tout le monde. J'en profite qu'on parle des festivals pour... on peut peut-être faire venir la table d'après. Juste, j'en profite qu'on parle des festivals pour vous annoncer que nous serons à Avignon pour les Assises nationales du centre-ville. On parle beaucoup du Festival d'Avignon. Donc, évidemment que le bouquin sera offert à ce moment-là. Et donc, c'est le 21 mai au soir, donc le mardi 21 mai au soir, où on présente comme d'habitude le baromètre, le 9e baromètre que City Media nous aide à monter et nous aide financièrement, voilà, avec l'Institut CSA. Voilà, et puis le 22-23 au Palais des Papres, donc lieu culturel très important d'Avignon.
Allez, le cinquième observatoire qui concerne les aménagements et les mobilités durables. Donc si Antoine Toubardeau, Benoît Rivet et alors de Madrid, c'est José Herrera.
Herrera.
Ouais. Peuvent venir.
Herrera.
Non. Bonjour. Alors là, on va remercier une université. Antoine Toubardeau, d'abord, un grand merci d'avoir accepté d'être là, mais aussi un grand merci à votre université, à l'Institut de recherche, puisque qui accepte la coprésidence de cet observatoire. Donc, c'est aussi important pour nous. Vous êtes donc un... Comment ? Ah oui, oui, oui. Bien sûr. Vous êtes en Allemagne, pardon, évidemment. Vous êtes spécialisé dans la mobilité et l'aménagement durable. Pouvez-vous nous donner quelques exemples en Europe qui vous semblent plus remarquables sur ces questions ?
Oui. J'avais une présentation aussi.
Oui, oui. Allez-y, elle est faite pour.
La présentation est en cours.
Est en cours.
La présence, oui.
Ah voilà, merci, oui. J'ai quelques exemples dans mes slides, donc je vais, si ça vous va, j'y viens.
Bien sûr.
Au fil de l'eau. Simplement, je vais dire un mot pour nous présenter. Donc, je suis chercheur et chef de projet R&D à IFER. Donc, je suis géographe de formation. Je ne suis pas directement spécialiste de la mobilité, mais il y a beaucoup de compétences en mobilité dans l'industrie. Donc, je dis ça pas pour dire que je ne vais pas répondre à vos questions, mais simplement, il y a beaucoup d'aspects que je ne pourrais pas tous les traiter aujourd'hui. Donc en fait, on est un institut de recherche conjoint entre le KIT, Karlsruhe Institute of Technology, qui est l'université de Karlsruhe, comme vous l'avez dit, et puis EDF, fondé en 2002. Et donc à ce titre, on est un institut qui est vraiment à cheval entre des problématiques industrielles et puis des projets de recherche fondamentales à financement public, des projets européens, des projets français. Et donc on travaille beaucoup notamment avec EDF, avec des gens comme Guillaume Flachat qui est là aujourd'hui dans la salle avec nous. Donc, si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc on est une centaine et on travaille avec des approches très multidisciplinaires en ingénierie, de sciences humaines et sociales, du développement aussi informatique, etc. Et on peut passer à la slide encore d'après. Merci. Et on a 4 domaines de recherche. Donc un domaine qui, historiquement, Climate Neutral Communities, on était plutôt sur les villes et maintenant ça s'est élargi aux villes et aux territoires alentours. Et tous les enjeux de neutralité climatique, comme le nom l'indique, les systèmes énergie, multi-énergie locaux, la géothermie, le développement des réseaux de chaleur, les e-fuels, la biomasse en général, un groupe qui travaille sur tout ce qui est hydrogène bas carbone, puis un groupe qui travaille sur tout ce qui va être transition énergétique, marché, environnement. Et donc, on peut passer encore à la slide d'après. Merci. Et donc, on va avoir de la recherche. On va suivre tout ce qui se fait d'un point de vue techno, matériaux, les roadmaps, l'évolution des régulations. On va développer des méthodos, de la modélisation et des outils. Et puis, analyser des cas d'études et enfin soutenir nos partenaires dans l'implémentation de solutions techniques. J'oublie pas votre question, mais c'est simplement pour introduire ma réponse. Et donc on va travailler plus spécifiquement sur l'implémentation de solutions énergétiques bas carbone avec des outils à multiples échelles pour le design et l'implémentation de différents scénarios, évaluer ces scénarios, mettre en place des indicateurs, des plateformes aussi qui nous permettent, ou des tableaux de bord qui vont nous permettre de visualiser l'évolution de ces indicateurs. Et sur la mobilité plus précisément, de la modélisation et de l'analyse de la gouvernance. Et on va travailler, c'est le dernier item ici, sur justement la participation et la prise de pouvoir par les acteurs locaux et notamment les citoyens à travers notamment des outils avec de la géoparticipation, donc de la cartographie participative. Voilà, et la slide d'après. Et donc, on a différents exemples dont je voulais un peu parler aujourd'hui, donc je n'entrerai pas dans le détail de tous ces exemples, mais je vais zoomer après sur trois d'entre eux pour parler de réalisations qui nous paraissent intéressantes. Alors, ce n'est pas du tout exhaustif, il y en a plein d'autres très intéressantes partout en Europe, mais c'est ce qu'on connaît et c'est ce sur quoi on a eu l'occasion de travailler. Donc, dans ce qu'on fait, il y a des offres à la fois sur plutôt amont, sur des études territoriales, des questions liées au trafic, sur l'intégration aussi de techno, électrique ou hydrogène, et puis sur les offres et services liés à la mobilité. Et donc, on a déployé différentes études sur ces questions-là, avec des partenariats, avec différentes villes, différentes collectivités ou partenaires, que ce soit en France, à Toulouse, dans le Grand Est, à Sélestat, Mulhouse, mais aussi avec des villes à l'étranger, notamment New York, ou des villes en Allemagne, à travers différents projets. Et donc, je vais donner trois exemples ou quatre exemples de projets, si on peut passer à la slide d'après. Je pense qu'on peut même passer encore à la slide suivante, parce que j'ai finalement déjà développé ces aspects. Merci. Un projet qu'on a développé dans le sud de la France, au Gros du Roi, qui était un projet financé par l'ADEME, où l'idée, c'est d'identifier la complémentarité d'un point de vue technique entre des batteries électriques, de l'hydrogène et puis du gaz naturel, du biogaz naturel, pour des différentes flottes d'entreprises. Et on a pu produire à travers ce projet des outils de caractérisation des critères de choix de caractérisation de motorisation pour appuyer les entreprises dans leur choix et adapter leur flotte. Ça permet aussi des analyses économiques environnementales. On évalue le potentiel en hydrogène vert et ça permet de développer des outils de prise de décision. Comme vous voyez, il y a une carte qui montre ça. Et l'aspect spatial est vraiment quelque chose qui nous semble particulièrement intéressant et le fait d'être en mesure de visualiser, d'analyser le croisement de différents critères, de porter cette compétence analyse spatiale. C'est quelque chose qui nous paraît particulièrement intéressant dans ce contexte d'aménagement et de mobilité durable. Et donc, c'est quelque chose, c'est à la fois un cas d'étude et c'est une compétence aussi qui nous paraît importante. L'exemple suivant, je parlais tout à l'heure de participation. Donc là, c'est un projet public avec la ville de Karlsruhe, donc un projet européen. Donc nous sommes basés à Karlsruhe, donc on était sur place, ce qui a permis de travailler en direct avec la ville pour développer le positionnement d'infrastructures de recharge pour des vélos électriques. Et donc pour ça, on se servit de cartographie participative, Public Participative GIS, pour ceux qui sont un peu familiers, où il y a eu à la fois des ateliers avec des cartes papier, des sondages en ligne avec de la cartographie numérique et puis des ateliers de travail complétés aussi par des entretiens, par des travaux en amont, en aval, avec la ville, avec les différents partenaires pour identifier des zones clés d'infrastructures et on sort un petit peu de la mobilité, mais on est bien dans la question d'aménagement. On a fait un travail un peu similaire avec la même méthode 2 ans après pour identifier les problématiques liées aux îlots de chaleur et les enjeux pour les citoyens et comment, quelles solutions derrière la ville pouvait mettre en place pour répondre aux attentes des citoyens sur ces questions d'îlots de chaleur, donc en identifiant des hotspots, littéralement, et puis des possibilités d'aménagement derrière pour la ville. Donc ça, c'est aussi un enjeu qu'on a entendu souvent mentionner aujourd'hui, ces questions d'îlots de chaleur, et qui est en lien avec des pratiques de mobilité, notamment quand on pense à la mobilité douce, pour les piétons, pour les cyclistes, ces questions de gestion de la chaleur en ville, c'est aussi, aussi un enjeu.
Juste vous demander, au niveau du taux de participation, vous savez si les habitants sont bienvenus?
Oui, le taux de participation du sondage, alors moi je n'étais pas directement dans ce projet, donc je n'ai pas le taux, je ne peux pas vous donner un chiffre.
Sans taux, la réaction, est-ce qu'elle a été positive?
La réaction est positive, largement positive. Ce genre d'outil cartographique suscite en général l'intérêt. Pour l'avoir fait sur d'autres projets aussi, il y a une petite difficulté supplémentaire à venir solliciter des gens sur un support cartographique sur lequel tout le monde n'est pas toujours à l'aise, où il peut y avoir des difficultés techniques, répondre à une carte sur un smartphone, quand on a un petit téléphone ou un peu vieux, parfois ça marche moins bien, mais il y a un vrai intérêt et ça donne des résultats très complémentaires d'un sondage classique. On peut vraiment ajouter encore une fois cette dimension spatiale et cartographique qui est assez innovante et qui est en plein essor et qui rajoute vraiment une dimension à l'analyse. On crée de la donnée, et pour en revenir à cette thème, enfin, on en a parlé aussi aujourd'hui, la question de la création de la donnée, et là on est vraiment aussi sur de la création, et on va capter une information supplémentaire. Autre exemple, on a travaillé notamment à Toulouse, à Saint-Ouen, et puis à Belgrade aussi, sur des modèles d'évolution du trafic à différents pas de temps et différentes échelles, pour voir le lien entre l'évolution du trafic et puis l'évolution des polluants et les possibilités d'adaptation des aménagements derrière. On peut passer à la suivante et qui fait le lien et qui va être mon dernier exemple. Donc en fait, ces questions d'aménagement urbain et puis d'environnement et de santé publique, c'est aussi des items et puis des thématiques, une approche qui nous paraît être au cœur de ces questions de mobilité et d'aménagement, et avec des méthodes qu'on a développées, appliquées notamment à Strasbourg. Donc pour évaluer le lien entre aménagement urbain, notamment les questions de production d'énergie, et puis les questions de trafic, de qualité de l'air, de bruit, mais aussi de réduction si possible des îlots de chaleur. Et le travail à Strasbourg a permis, certains des résultats ont permis, l'implémentation d'un scénario volontariste a permis de contribuer à 6% de la baisse du trafic derrière. Et donc ça, on est en mesure de tester des scénarios, de comparer différentes options de planification et de s'adapter aux besoins des villes. Ici il y a cet exemple de Strasbourg dont je parlais qui nous a permis de développer des motos d'eau sur ces thématiques là. Donc on peut passer à la dernière slide. Je crois qu'on a sauté une, mais c'est pas grave. C'était simplement notre ce qu'on propose de peut-être d'amener à l'observatoire. Donc dans le cas des 3-4 séminaires qui sont prévus d'ici novembre 2025, donc il y a des sujets qu'on souhaite amener qui sont évidemment en lien avec ce que je viens de mentionner, puisque c'est notre cœur d'expertise. Mais on est aussi à l'écoute des réactions que ça peut susciter aujourd'hui ou dans les temps à venir avec les différents membres des observatoires, les différents partenaires. Et ce qui nous paraît intéressant, c'est de voir le lien entre, d'un côté, les modèles un peu quantitatifs qu'on peut développer, les questions de gouvernance, de prise de position par les citoyens. C'est aussi se baser sur nos différents partenariats pour essayer vraiment d'amener une vision européenne. Comment on peut construire de façon itérative entre des experts plutôt techniques, les besoins des collectivités, les besoins des usagers, identifier les bons fronts de recherche pour développer de l'expertise et faire des propositions de recherche derrière.
C'est ce qui est intéressant, du moins. Et c'est vrai que l'exemple d'un maire comme Cherbourg-en-Cotentin nous paraît très intéressant parce que c'est vrai que vous avez à Cherbourg, dans le spatial, vous êtes au bord de la mer. Donc voilà, il y a des choses qui se font différemment. La mobilité est aussi en train de bouger de façon énorme en centre-ville et même dans la ville en général. Peut-être que ce serait bien que vous nous donniez un peu votre témoignage d'élu local. Monsieur le maire.
Voilà. Merci. D'abord, merci de l'invitation. Très heureux de pouvoir venir peut-être apporter, comme d'autres l'ont fait avant moi, au cours de cette belle journée, un témoignage un peu local. Je vais d'abord peut-être commencer par vous présenter la ville rapidement. Je pense qu'il y a une présentation qui va apparaître. Voilà. Donc, Cherbourg-en-Cotentin, c'est une ville de 80 000 habitants, située en Normandie, dans la presqu'île du Cotentin, dans une agglomération de 180 000. C'est important d'avoir ça l'idée parce que tout ce que je vais vous évoquer tout à l'heure vient, en fin de compte, d'une évolution institutionnelle massive que l'on a portée et que j'ai portée en 2016 et 2017. D'abord, en 2016, on a transformé la communauté urbaine en commune. Donc, on est allé au bout de l'histoire de l'EPCI, puisqu'on a, encore une fois, transformé l'EPCI en une commune. Et ensuite, nous avons marié 10 intercommunalités à l'échelle du Cotentin pour en faire qu'une seule. Et c'est bien d'abord cette évolution institutionnelle qui nous permet de maintenant travailler sur les sujets que je vais évoquer et qui vous intéressent, la requalification du cœur de ville et la question de mobilité à l'échelle de l'agglomération, puisqu'il faut une seule autorité organisatrice des transports pour pouvoir avancer. C'est un territoire qui est marqué par une dynamique économique industrielle extrêmement forte. C'est l'une des villes qui a créé le plus d'emplois en France ces 5 dernières années, avec un taux de chômage qui est passé de 11% à moins de 5. Il y a encore 2500 emplois à pourvoir aujourd'hui, puisqu'on est porté notamment sur les questions énergétiques, du nucléaire jusqu'à l'hydrogène, en passant par les énergies marines renouvelables, et puis bien sûr des groupes importants comme EDF, vous en avez parlé, construction de l'EPR en cours, finalisation de l'EPR, et puis bien sûr Naval Group, que tout le monde connaît. Nous sommes Action Cœur de Ville depuis 2019, et avec une volonté justement de profiter à la fois de l'embellie économique, des aides aussi et de l'accompagnement du dispositif Action Cœur de Ville, pour pouvoir consolider notre centre-ville qui avait vieilli. Et donc ça passe par plusieurs enjeux. D'abord la question de la mobilité. Vous voyez ici à l'écran la photographie de l'agglomération. Je vous l'ai dit, 182 000 habitants, 129 communes, dont Cherbourg-en-Cotentin, qui fait 80 000. Je vous laisse donc faire les calculs pour les 128 autres communes. Et donc on a bien une aire urbaine très forte et puis un tissu rural. Jusqu'à présent, il y avait 10 interco, donc pas de transport. Pas de transport public à l'échelle de l'agglomération. Et donc, on a mis un dispositif en place. C'est un de mes adjoints qui est aussi vice-président de l'agglomération, Arnaud Catherine, qui pilote tout cela, avec des travaux sur Cherbourg-en-Cotentin, je vais y revenir, qu'on appelle le bus nouvelle génération, c'est un BHNS. Et puis, en zone rurale, la création de lignes interurbaines de transport à la demande pour que chaque habitant puisse se déplacer de façon évidente à l'intérieur de l'agglomération. Et ça change la vie des gens. On a la chance d'avoir parmi les plus belles plages de France, même si on a du mal à dépasser parfois les 25 degrés l'été, mais ça, c'est une autre question. Mais on a beaucoup de touristes qui viennent nous voir. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas de liaison, par exemple, entre la gare de Cherbourg-en-Cotentin et la côte. Donc demain, tout cela va être revu et on est en train de porter, je crois, une vraie révolution à la fois institutionnelle, mais surtout au service des habitants. Voilà sur la partie transport. Aujourd'hui, on a 21 lignes de bus et à partir du mois de septembre, il y aura un nouveau réseau qui va intégrer notamment le bus nouvelle génération et puis le développement des lignes interurbaines que vous voyez à l'écran. Mais cette question de mobilité, elle est liée à l'évolution institutionnelle, mais c'est une aussi des clés de redynamisation de l'ensemble du territoire. On peut passer au slide suivant. Là, vous avez le futur réseau quasiment à l'échelle de Cherbourg-en-Cotentin. Donc aujourd'hui, nous avons fait beaucoup de travaux pour créer des voiries en site propre pour améliorer le cadencement des bus. Un autre enjeu pour nous est passer d'un réseau finalement qui était utilisé uniquement par des gens qui n'avaient pas de voiture, je pense aux étudiants ou aux retraités, à expliquer à l'ensemble de la population que tout le monde doit désormais prendre le bus. Et donc, on aura dans quelques mois... Ça peut paraître évident quand pour des grandes villes comme Strasbourg et d'autres, mais il y a encore des territoires où ce n'était pas le cas, et j'en suis l'un des représentants. On aura demain des bus de 5h30 à 22h30 en semaine, minuit le week-end, ce qui va aussi changer la vie des gens. Et ce qui, ça peut paraître paradoxal, mais jusqu'à présent, cela n'existait pas, avec une volonté d'irriguer le centre-ville et bien sûr l'ensemble de l'agglomération. Avec, ça, c'est le réseau urbain, vous l'avez compris. Puis la carte précédente, c'était les liaisons avec l'ensemble du territoire pour que les gens, les habitants, les touristes, les entreprises, les salariés puissent se déplacer en évitant de prendre la voiture. Slide suivant. Donc là, vous avez l'état actuel et puis les futurs, les travaux en cours. Je vais vous montrer quelques photos tout à l'heure. Donc vous avez l'état initial et l'objectif recherché avec supprimer la place, diminuer la place de la voiture sur l'espace public, rendre de la place, surtout que le site est plutôt beau. On est au bord de l'eau, ça a été dit tout à l'heure par vous, monsieur. Requalification urbaine dans une ville qui n'avait pas connu de travaux importants depuis 50, 60 ans. Avec aussi un enjeu en termes de réseau, gaz, électricité, eau. Et donc, on en profite pour refaire les réseaux, mais refaire aussi le dessus. Et en profitant pour justement créer les endroits et les zones en site propre pour libérer un peu le trafic et permettre aux bus d'être plus rapides, surtout que la voiture. Avec un enjeu aussi de valorisation de nos espaces portuaires qui sont pour Cherbourg-en-Cotentin l'un des marqueurs forts de la ville. Ces travaux vont être terminés au printemps, ça a été compliqué, je vais vous en parler tout à l'heure parce qu'il faut dire les choses, il faut un peu de courage pour moderniser une ville à ce point, surtout qu'on a tout fait en même temps et on continue puisque j'y viens, c'est le slide suivant. En plus d'avoir fait tout ça, on va requalifier notre cœur de ville et vous avez ici sur le slide un autre dossier qui vous est présenté, c'est la requalification d'une voie ferrée de 3 km quasiment, que peu d'habitants connaissent, une zone abandonnée en plein cœur de ville. Et pourtant, c'est extrêmement intéressant sur le plan de la nature et sur le plan de la diversité. Et donc, on va en faire une voie pour un peu plus de 5 millions d'euros, une nouvelle voie vélo et piétonne qui va permettre de passer de l'arsenal Naval Group, là on fabrique les sous-marins nucléaires français, à la gare de Cherbourg en passant par des zones que les gens ne connaissent pas. Donc c'est à la fois développer la mobilité douce, vélo, piéton, mais aussi rendre de l'espace public aux habitants, puisqu'encore une fois, la plupart des habitants ne connaissent pas la zone que je viens d'évoquer, puisque c'est, comme je l'ai indiqué, une ancienne voie ferrée. Et donc les travaux sont en train de démarrer. C'est une sorte de périphérique intérieur urbain, vélo, piéton. C'est comme ça qu'on l'a présenté aux journalistes, et je pense que c'est comme ça que la population le comprend. Slide suivant. Requalification des rues piétonnes, c'est la même chose, vous avez avant-après. Je vais vous montrer d'autres photos tout à l'heure. Donc là, c'est assez simple. On a la chance d'avoir un cœur de ville. Je salue mes collègues élus et les collaboratrices et les collaborateurs de la ville et de l'agglomération qui travaillent depuis des années sur ces enjeux-là. Un centre-ville, malgré tout, qui résiste, et qui résiste plutôt bien. On a beaucoup de jeunes indépendants qui ont repris les cases commerciales vides, et on est passé en quelques années d'une ville où il y avait beaucoup de cases commerciales de non occupées, de vides, à aujourd'hui un centre-ville où quasiment l'ensemble des espaces sont occupés. Et on a décidé de lancer ces travaux des rues piétonnes pour une raison simple, elles ont été faites à la fin des années 70, pas de travaux depuis, et comme nous l'avons expliqué aux commerçants, ne pas faire les travaux des rues piétonnes, c'était tuer les rues piétonnes à moins de 5 ans, pour une raison simple, c'est que les réseaux dessous sont dans un tel état, je parle du gaz, de l'eau et de l'électricité, que si on ne fait pas les travaux, on finira par avoir de tels problèmes d'alimentation électrique ou de gaz des commerçants que tout cela va péricliter. Et donc on a lancé la rénovation des rues piétonnes avec la volonté de profiter de l'embellie économique, mais aussi de la présence d'indépendants, de jeunes commerçants qui cherchent à s'installer pour redynamiser notre cœur de ville. Le tout étant à proximité des bassins, sachant que mon prédécesseur, Bernard Cazeneuve, avait aussi mis en place une passerelle qui permet de passer d'une rive à l'autre et d'élargir le centre-ville. Et puis on continuera dans le mandat prochain avec une rénovation importante aussi de ce qu'on appelle le quai Houghton Collins, hein, qui permet de passer et là aussi d'agrandir le cœur de ville de façon assez dynamique. Et donc, cette question du traitement piétonnier, il était un sujet. Donc, vous voyez bien, c'est bien une vision globale. D'abord, évolution institutionnelle massive. Ensuite, mobilité. Et puis, travaux d'ampleur sur la ville. On va passer au slide suivant. puisque je voudrais terminer en toute franchise pour vous dire qu'aujourd'hui, ça ressemble à ça. Donc, comme vous pouvez le constater assez facilement, c'est moins sympathique que les photos que je viens de vous montrer. Donc là, vous êtes sur les rues piétonnes, avec des enjeux aussi environnementaux, hein, changement de conduite amianté, etc., etc. Donc, vous imaginez une ville, finalement une ville moyenne, qui était un peu en décroissance, qu'on a réussi à remettre sur le chemin du dynamisme. Je vous ai parlé tout à l'heure des chiffres et de l'économie, avec ce taux de chômage qui a fondu comme neige au soleil. Donc, c'est le moment d'investir, donc on le fait. Et voilà un petit peu la réalité de nos sujets. Mais les choses se passent bien. Moi, je souhaite beaucoup de courage aux élus qui vont se lancer dans des travaux aussi importants que ça. Il faut convaincre. Ce n'est pas toujours simple. On n'est pas toujours aidé, accompagné, parce que ça bouleverse beaucoup les habitudes. Mais je pense qu'il faut le faire parce qu'on est là pour ça. On est là pour imaginer demain. C'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas, dans notre ville moyenne, qui, encore une fois, fait parler d'elle sur un certain nombre de sujets.
Je trouve ça très intéressant sur deux choses. D'abord, on le dit souvent au niveau de Centre-Ville en Mouvement, il faut une véritable volonté politique pour faire avancer les choses. J'aimerais que vous me parliez un petit peu de votre marché également, parce que j'ai trouvé ça très intéressant, ce marché sur deux places que vous faites. Et on voit dans tous les baromètres que la jeunesse, les 18-25 ans, sont de plus en plus attirés par le centre-ville. Et ce que vous êtes en train de faire sur les transports en commun, c'est aussi de la jeunesse qui vient dans le centre-ville. Et moi, j'étais très étonné quand j'étais à Cherbourg de voir que bah, y a de plus en plus de terrasses de café, il y a de plus en plus de centre-ville plaisir. Voilà.
Oui, alors c'est vrai que cette question de mobilité, je vous l'ai dit, elle est liée à la vision, à l'évolution institutionnelle qu'on a réussi à porter. Mais on en fait finalement un enjeu de modernité, un enjeu d'environnement en développant les mobilités douces, pistes cyclables, je vous l'ai dit, et puis bus. Mais c'est avant tout pour moi un enjeu social. Dans une ville comme Cherbourg-en-Cotentin, 25 à 30% des gens n'ont pas de voiture. Et je vous ai dit qu'on avait un réseau de bus très peu attractif. Je suis persuadé quand demain, lorsqu'on aura des bus jusqu'à 22h30 en semaine, minuit le week-end, c'est aussi ça, faire la ville de demain, c'est-à-dire faire vivre ensemble, faire la ville ensemble. Et je pense qu'on va apporter des réponses à des habitants qui, aujourd'hui, eh bien, quand vous êtes au bout de la ville, sans voiture, vous n'allez pas au théâtre, vous n'allez pas au restaurant, vous n'allez pas boire un verre en terrasse. Et donc, je pense qu'on a un véritable enjeu de vivre ensemble autour de cette révolution liée à la mobilité. Là, vous avez évoqué deux places. Effectivement, c'est il sort parfois des choses intéressantes. Et ça, c'est un effet, l'un des effets positifs de la crise Covid qu'on a traversée. Souvenez-vous, les maires ici présents ou les élus, je salue mon collègue Normand qui est là. Un matin, nous avons appris par nos préfets respectifs que pour maintenir les marchés à l'extérieur, les marchés non sédentaires, qui font vivre les villes, il fallait travailler sur la distanciation dehors. Alors qu'au même moment, tout le monde pouvait aller dans les grandes surfaces sans se poser la question de la distanciation. Vous vous souvenez de ce moment-là? Et donc, on a réfléchi avec nos commerçants, comme beaucoup de maires ont fait, et avec le préfet de l'époque qui nous a beaucoup aidés. Et donc, on est passé d'une seule place historique à deux places. Et puis, après le Covid, on s'est aperçu finalement que ces deux places, c'était plutôt intéressant. Alors, tous les commerçants qui étaient contre, c'était devenu pour, etc., etc. On s'est aperçu finalement que c'était intéressant parce que passer d'une place à l'autre, ça sert le marché, les commerçants non sédentaires, mais ça crée du trafic dans les rues piétonnes que je vous ai exposées tout à l'heure. Et finalement, ça venait alimenter aussi les jours de marché, les commerçants sédentaires qui nous ont demandé de continuer cette question-là. Et puis en plus, bien finalement, notamment en période estivale, de nouveaux commerçants non sédentaires sont vus s'inscrire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si on voulait repasser à une seule place, on ne pourrait pas, puisqu'il faudrait exclure de jeunes commerçants non sédentaires du marché. Et donc, on a décidé de garder les deux places. Alors aujourd'hui, il n'y a plus qu'une place, puisqu'on est en phase de travaux, mais on a déjà rassuré tout le monde. On gardera les deux places qui se remplissent bien en période estivale, qui sont un peu moins remplies l'hiver, mais qui créent quand même du trafic et du flux autour de ce cœur de ville. Et donc finalement, c'est quelque chose de positif qui est sorti de la crise Covid qu'on a tous géré. Et moi, je vois ça d'un œil très intéressant, surtout qu'on a la chance d'avoir des marchés de plein air qui ont vraiment une vraie vitalité avec des produits locaux et là aussi des jeunes artisans, de jeunes maraîchers qui essayent de travailler. Je fais le lien avec la crise agricole qu'on vient de traverser. Mais en tout cas, on a des marchés de plein air qui fonctionnent vraiment bien. C'est aussi l'un des marqueurs du Cotentin. Merci à vous.
Merci. Vous avez eu beaucoup de courage. Il s'agit d'une belle aventure, en tout cas. Madrid. Allez, on est parti sur Madrid parce que quand même, on reste en Europe. Monsieur José Herrera, Madrid, c'est une ville capitale. On va parler du parc colossal que vous avez construit et qui recouvre aujourd'hui pratiquement toutes les autoroutes de la ville. Vous allez nous en parler, nous dire ce que ça a amené. Moi, je pense tout de suite à la question du bruit. Ça vous a permis aussi d'introduire la nature en ville. Voilà. Dites-nous un peu aujourd'hui comment est Madrid, grâce à cet aménagement assez gigantesque, est-ce que ça a pu apporter aux habitants en termes de confort et de qualité de vie, notamment.
Thank you very much for the invitation to share our experience in Madrid in this panel. Of course, this huge intervention in the city has completely transformed not only the relation of the citizens around this area, but all the city. First of all, you need to consider that M30, that is this great Madrid Beltway, started to be built in 1974 in order to connect the southern neighborhoods in Madrid to the airport. The first four sections were built at the time in 1974, but it keep on continuing building many sectors in order to complete the belt in 1992. Until 2004, it was owned by the Ministry of Infrastructures of the national government. And at that year, the ownership of the M30 was granted to Madrid City Council. And that was the time in which the City Council decided to carry out a comprehensive transformation of the M30 through 17 major projects. The aim of these 17 projects were to improve the connections between the M30 and the main roads. You need to consider that Madrid is in the crossroads of six major highways in Spain that connect the center with the rest of the country. The City Council also wanted to create new routes to reduce the traffic and in congested areas. And what was more important was to fill the gap, to heal the wound created in the south of the city by the highway that separated the neighborhoods in the south with the historical center. This project was executed in a record time of 980 days. That was amazing. The total cost of the 17 projects was about 9.4 billion euros, and that were paid in a 54% by the national government, a 43% by the city council, and just a 3% by European funds. Most important part of this operation is that a priority was to keep on working the belt while the 17 projects were built up. Every day, many thousands of Madrileños used that way, even when many projects were currently working. Now, M30 has a traffic of 430 million vehicles per year. The number is dropping. The record was in 2010, but it shows that many people now prefer to take the public transport that also has a huge expansion in the at the same time that this project was built. This is the current situation of that area where there was a huge highway separating two parts of the city. Now there is a huge park that many hundreds of thousands of Madrileños benefit every day. There were used the construction was made through two different systems. For most of the projects, the construction was made through the cut and cover method, and that it was cheap and allowed to keep on the traffic working on. Please, the next slide. Yes. This is how it was built in most of the parts, but by the bypass underneath, two major machines that were called Dulcinea and Tizona were used. We, the city council, made the patents for these machines that are 15 meters in diameter, and allowed to build simultaneously the two ways of the highway while keeping the traffic on top. Please, the next slide. This is a section of the main part of the bypass. The tunnels are divided into three sectors. The middle sector is for traffic, for both private and public traffic. There is a service circulation way on the bottom of the tunnel in order to allow all the critical transports in Madrid to go quickly for an accident or something like that. And in the top, there is a part that allows the tunnel to recover the air and to keep on all the installations working at the same time. The tunnel has state-of-the-art installations concerning, for example, energy supply system. All of the installations are controlled by a single control center that operates 24 hours per day and 365 days per year. The energy, the internal network is managed from Calle 30 control center, and it needs a medium of 15 kilowatts per day with a total power demand of 60 megabytes. And the lighting system is also a state-of-the-art one with three levels of illumination, permanent, emergency, and guiding. For the traffic control system, that is one of the most efficient, that not only in order to guarantee that there are no traffic jams inside of the tunnels, but also in order to avoid accidents. There are seven parameters that are controlled every single second. And then there are also closed circuit television systems, linear heat detection that that measure every 50 meters a decrease of 1 degree in the temperature in of the internal of the tunnels. There are also public address systems in order to call the people if something happens, and systems for detecting atmospheric conditions, not only on the level of carbon monoxide and nitrogen monoxide, but also, for example, controlling the visibility inside of the tunnel in order to increase or decrease the light through the major control. This was a huge. This is now the central park that was that is in the top of the highways. This is an iconic bridge made by Dominique Perrault, a French architect, and as I said, hundreds of thousands of Madrileños use this every day in order not only to go to the city center or to their neighborhoods, but just to take fun or to play sports and game them. This huge effort wouldn't make sense without having a strong commitment to support and to increase the public network of transport. At the same time that the City Council was developing these 17 projects in the M30, the regional government was expanding the subway network and in a similar effort, and they built more than 140 kilometers of new lines and 90 new stations in just 10 years. That means that now Madrid has the fifth longest subway network in the world, just after London, New York, Shanghai, and Paris. Considering that we have much lower population, just 3.3 million people in the city, and 6.7 in all the region of Madrid. So, what are we? This is concerning to the park. The environmental corridor had a new 36,000 trees. Now they are more, and it is going to be connected also with what we call a metropolitan forest, that is a huge reforesting operation in the north of Madrid that will have 1.5 million new trees planted in 8 years and 5.5 million plants planted in the same time. And this is going to be connected to the city center through the north, through a huge operation that is called Madrid Nuevo Norte, that is also starting to be developed. This is, if I may, I will finish with this, and of course I can answer your questions. This Madrid Nuevo Norte is what we are doing now to create a new city center in the north. We believe that healing or filling the gap in the south, there is an opportunity to create a new urban center in the south that will be linked to a new urban development in Campamento, and this is another new neighborhood in the north that that has a huge scale. It has more than 400,000 square meters of green areas converging to the Central Park, and a 3-hectare space that will be created on the covering of the Chamartín roads. We are covering all the railways in a surface of 7 kilometers to with a wide of 1 kilometer, and all of the top of these railways will be a new metropolitan forest.
Je trouve ça magnifique. C'est vrai que j'étais avec EDF à l'époque faire une visite terrain à Madrid et le parc et comment vous avez pu recouvrir l'autoroute est absolument spectaculaire. Et par rapport, mais ça on en parlera dans un des prochains observatoires, vous avez, je ne sais pas comment on dit, des espèces de plantes ou des races de... Non, pas des races de plantes, mais au lieu de faire des racines qui s'enterrent sur cette partie au-dessus des autoroutes, ils ont mis des plantes, des arbres avec des racines qui s'étalent. J'ai trouvé ça merveilleux et quand on parlait de l'exemple de Montpellier, c'est des exemples qui vont nous servir, évidemment.
Merci. On va terminer par le dernier observatoire. Il nous reste encore un peu de temps. Bravo. Alors, c'est l'habitat et la vie urbaine. Bon, normalement, il devait être présent Jean-Philippe du coin Clément, mais il a parlé ce matin. Donc, si Francisco Ayala Ortega peut venir, ainsi que Renaud Sorlan Larreguin.
Oh. Renaud Sorlarguin, qui est également membre de notre conseil d'administration et qui est un des grands spécialistes sur tout ce qui est le management de centre-ville également, puisque c'est le président de l'Observatoire national, là je dis bien, sur la gestion de centre-ville. Voilà. Alors, on va peut-être. Oui, il est tout seul. Et donc, le maire de Mennecy, ayant s'étant exprimé ce matin, qui est le coprésident. Oui. Le. C'est bon ? Non ? C'est bon ? Oui, le maire de Mennecy s'étant exprimé ce matin, puisqu'il avait ce soir un conseil municipal, n'est pas là, mais il co-préside avec vous cet observatoire sur l'habitat et la vie urbaine, qui est très important également. Comment faire revenir des habitants au centre-ville ? On sait que c'est un peu plus cher que d'avoir du logement neuf, parfois, de rénover. Voilà. Je vous laisse la parole.
Oui, moi, je vais vous demander, en tant que coprésident de cet observatoire, quels sont justement les thèmes que vous aimeriez aborder et l'expérience que vous pouvez nous faire partager ?
Okay, good afternoon. First of all, thank you for the director, thank you for the president of the Observatory for City Center. It's a great pleasure for me and for my city to participate in this observatory, and it's so important for us, for Fuenlabrada, to coordinate this this observatory, this area. This is important for me, and as you said, I think that we have to work for the next 2 years. We have to work for about four items or four lines to work. I'm going to explain the four lines, and I explain to what we do in Fuenlabrada to accord with this with this line. First of all, I really would like to propose four lines of work. In first time, new housing. Second time, rehabilitation of housing to improve energy efficiency and universal accessibility. In third, housing for renting. And in fourth time, innovation and urban sustainability. Let's talk about new housing. We must work to facilitate citizens' access to decent, adequate, and accessible housing. We must pay particular attention to the most vulnerable groups, such as younger people who are affected by job insecurity and access to credit. We need to create a new territorial and urban model based on the compact city approach. This model should prioritize sustainability, universal accessibility, environmental protection, and the fight against climate change. To meet demand forecast, we must adjust new housing construction. This requires rational use of land and resources, including the water. Public initiative is essential to drive this process forward. The public administration should promote and control urban development. In the last 20 years, three new neighborhoods have been built in my city, Fuenlabrada. Municipal initiatives in urban planning, land expropriation, and development have enabled the construction of public housings with quality facilities and amenities at prices that are affordable. This project was awarded with National Urban Planning Award, a model of publicly controlled, subsidized housing with fixed price has been developed. As a result, young people have been able to access housing at a cost of less than 30% of their family income, creating a more egalitarian and cohesive city. In this point, I strongly believe that we should discuss about the concept of a compact city that uses less land. The idea is to increase urban density to promote sustainability, economic activity, and employment while reducing carb dependency. This can be achieved by mixing different land uses and moving toward the concept of a 14-minute city. In the second hand, the second issue that I want to speak is housing rehabilitation. It's an essential aspect of housing policy. It's a fundamental tool for creating more sustainable, resilient, and habitable cities. Rehabilitation uses existing housings, rehabilitizes urban areas, and maximizes the use of existing infrastructure. By reusing already developed spaces, it reduces the conceptions of new land and the ecological footprint of cities. The consolidated city has environmental value as a collective cultural creation that we must preserve and conserve. Renovation is a fundamental tool for regenerating an existing city. It involves rehabilitating buildings and public spaces in an integrated manner, while simultaneously improving living conditions, creating jobs, and promoting urban sustainability. Improving energy efficiency, making space universally accessible, repairing facilities and structural elements, and redeveloping public spaces are the main objective of housing renovation. In Spain, over the 81% of buildings have a low energy rating. In addition, 75% of residential buildings are not accessible, and 40% of four-story buildings lack a lift. For housing renovation, public support is a crucial. Homeowners association can improve their capacity to carry out renovation and energy efficiency works through technical assistance program and public financing. In the last 5 years, Fuenlabrada has rehabilitated over 5,000 homes with financial support from the municipality, Spanish government, and European Union. This action is part of the Fuenlabrada 2030 urban agenda. The aid of renovation promotes conservation, improved energy efficiency, and universal accessibility in housing and the urban environment. This helps to reduce energy bills for the families and greenhouse gas emissions in line with the European Union's objective. We aim to promote a green transition, decarbonization, and energy efficiency to increase the comfort and the attractiveness of housing in our city by supporting the most vulnerable social group. This will help create jobs and new economic activity. Housing renovation can stimulate activity and employment in our cities. In order to achieve this, we need to use all our resources and give a new lease of life to this building. We should make use of empty and underused building to create energy efficient, sustainable, and inclusive housing that meets the challenges of the new Bauhaus and European Green Pact. We go to the third point, rental housing. We should prioritize policies that make it easier to rent homes. The instability of the job market and high housing costs make it difficult for young people to become emancipated. We need to encourage the construction of high-quality social rental housing with efficient standards. To strengthen the economic incentives for its development at public prices, this program will require a long-term agreement, 25 years. By doing so, we can increase the supply of rental housing, which will help to moderate prices. The aim to this measure is to support the construction of public social rental housing. This will facilitate access to affordable rental housing for young people, the elderly, and the most old, and the most vulnerable sectors. Municipalities can provide public land, and regional and state governments can provide the necessary funding for the construction of rental housing. The rental housing market in Spain was very weak, making this policy particularly important. Only just over 20% of the population resides in rented property. They help young people facing vulnerability and social exclusion, and to facilitate their emancipation, Fuenlabrada City Council has launched a line of assistance to combat energy poverty, promote responsible use of energy, and maintain habitual residence. The grants aim to maintain equity and reach those in need based on their income level. They are calculated according to the household income and aim to facilitate young people's access to decent rented houses, supporting their emancipation. Last but not the least, let's discuss about innovation and urban sustainability. We have covered the main topic of housing policy, building new homes, renovating existing home ones, and providing rental housings. All three are important. We must work on them and move forward. In a forum like the Observatory for City Center, we need to make risky and innovative proposals. Our commitment to mitigate the climate impact in building sustainable, efficient, and resource-efficient cities is defined by the European Green Pact framework. We need to pay more attention to innovative urban projects, try new and risky solutions to address urban challenges and especially new housing needs, to reduce the ecological footprint of our cities and meet the housing needs of our citizens. We must use all available resources. We should reclaim all empty buildings in the heart of all our cities and give them a new life. In urban centers, we will soon have many empty buildings, which I see as valuable heritage rather than constructing new housing. We can adapt these buildings to meet citizen demands. This can be achieved by reducing the average size of housings, improving accessibility, energy efficiency, and connectivity, providing innovative technologies, and increasing common areas to share spaces. This approach reduces land consumption, increases comfort, and strengthens social ties between inhabitants. It combats unwanted loneliness and strengthens the sense of the community and social identity. The European Urban Initiative by DG Regio is an excellent program for cities to experiment and develop new capacities for urban transformation. It promotes innovation in the face of urban challenges in the European Union. The European Union Initiative serves as a good example of such a program. For Fuenlabrada City Council, I'm finished now. Don't worry. For Fuenlabrada City Council has, this is the more important thing. For Fuenlabrada City Council has launched a project called SHARE, which is an intergenerational cooperation project. The program has provided funding for this initiative. The project provides accessible and adapted housing for the elderly in a disused public school. The elderly then rent their homes to young people at public prices, allowing them to emancipate themselves. Technicians from the fields of architecture, social welfare, and elderly care will collaborate in a co-design process to transform the public school in response to needs of the elderly. CERE also offers assistance to rehabilitating homes that will remain vacant and adapting them to the needs of young people. These young people will then participate in activities with the elderly to enhance their personal autonomy and combat the loneliness. We must pay attention to energy efficiency and the fight against energy poverty. Initiatives like district heating for energy communities can help us develop a more social and independent energy model. This model replaces the consumption of This model replaces the consumption of fossil fuels with renewable energies like the sun, wind, or biomass. Cities and local councils can play a crucial role in promoting the use of renewable energies in public spaces to reduce greenhouse gas emissions and achieve climate neutrality. They can organize and articulate demands for this process, such as installing solar panels on the roof of large public facilities. We need to mobilize public resources to fight energy poverty, which mainly affects the elderly and young people. This is particularly important in cities like mine. In Spain, 30.3% of young people are in risk of social exclusion. This makes it difficult for them to become independent and enjoy a self-sufficient life. Energy poverty is a form of social exclusion and affects young people across the European Union. Then, these are the four points. And finished. Thank you so much for your attention. Thank you so much.
Merci beaucoup. Alors, je pense que cet observatoire va être aussi passionnant. Je laisse la parole, on a vu avec notre président Philippe Laurent, à Renaud Solarguin qui va nous mettre un petit mot de conclusion, parce que c'est vrai que en tant que président de l'Observatoire national de la gestion de centre-ville, tu as un regard sur tout et je nous donne ton avis puisque nous devons finir à 16h10 maximum parce que il y a des gens qui prennent le train après.
Ceux qui prennent le train sont autorisés à partir. Je ne voudrais pas être responsable. Alors, on n'a pas le même point de vue d'ici hein, que là-bas. Moi, j'étais au fond de la classe, là, près du radiateur, tout à l'heure. Je pensais que j'étais le seul à être sur mon petit téléphone. Moi, je crois que... Alors, puisque vous êtes beaucoup sur le téléphone, vous pourrez voir ce que je vais dire sur LinkedIn, puisque j'ai posté une petite conclusion déjà, juste avant d'arriver. Voilà. Donc, comme ça, vous pouvez continuer à travailler sur votre téléphone.
On est moderne à Centre-Ville en mouvement.
Donc, oui, quelle belle idée cet observatoire. Parce que bon, ça fait peut-être 25 ans que l'on travaille sur les centres-villes. Certains diront bien plus, mais c'était des précurseurs. Il y a eu cette étape de lanceur d'alerte. Merci Pierre. Donc merci tous les présidents qui se sont succédés au sein de Centre-Ville en mouvement, qui a été le premier organisme à tirer la sonnette d'alarme. Et puis à associer l'ensemble des élus, parlementaires et maires autour de cette cause, ce grand sujet des centres-villes, il y a déjà 20-25 ans. Et puis il y a eu, je pense, une deuxième phase qui a été celle de l'inclusion de l'ensemble des sujets qui font la centralité. Puisque à l'époque, on parlait de centre-ville sous la focale du commerce. On avait des FISAC, ou alors éventuellement, on parlait de centre-ville sous la focale du logement, avec les OPH, ou des... zones d'activité, des ZAC, des opérations d'aménagement. Mais je crois que c'est en 2017, avec l'initiative du gouvernement, donc Jacques Mézard à l'époque, de lancer Action Cœur de Ville, puis un petit peu plus tard Petite Ville de Demain, avec une approche, je redis, inclusive au sens, même si ce n'est pas forcément le mot totalement juste, mais qui appréhende l'ensemble des composantes qui font l'attractivité du centre. Seul le commerce ne suffit pas, seuls des beaux logements ne suffisent pas. Ce qui fait qu'un centre s'appelle un centre, c'est qu'il y a tout à l'intérieur. Je ne vais pas parler de ville du quart d'heure, parce que je pense qu'on en a beaucoup entendu parler déjà. Mais en fait, la centralité, c'est juste ça. Sauf que comme on a sorti beaucoup de choses, d'abord les commerces dans les années 70-80, puis ensuite les logements, le pavillon de banlieue, puis ensuite les stades, les équipements culturels comme l'aréna et d'autres, et puis plein d'autres choses, l'administration, il y a beaucoup de mairies qui sont allées à l'extérieur. Et bien finalement, on a sorti ce qui faisait le centre du centre. Donc le centre n'est plus un centre, il n'a plus que la mémoire du centre. Il n'y a plus que les vestiges, le patrimoine, le bâti qui est là, mais il s'est vidé de sa substance. Et on a éclaté le centre à l'extérieur du centre. Donc on a créé des attractivités multiples un petit peu partout, mais qui sont partielles. Et il n'y a rien qui a pu concurrencer véritablement le centre historique dans sa dimension complète. Donc le centre a encore sa place aujourd'hui. Voilà. Mais c'est grâce justement à cette approche globale d'analyse et de plan d'action de relance, de plan de revitalisation, que l'on va trouver dans Action Cœur de Ville, Petite Ville de Demain et d'autres, qu'on va approcher le sujet d'une manière globale, logement, espace public, culture, services, toutes les aménités qui font que le centre est un endroit formidable parce qu'on trouve tout au pied de chez soi. Et c'est bien entendu à la fois une source de gain de temps, qualité de vie pour les habitants, c'est également un élément important pour tout ce qui est réduction des gaz à effet de serre, déplacement et enjeux climatiques. Alors, troisième étape, je pense qu'on y arrive aujourd'hui, et ça donne un autre sens, une autre lecture, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve ici, avec cet observatoire, et j'ai noté une énorme demande de partage des idées, des datas, de comparaison entre les villes, partage des recettes, partage des bonnes pratiques, il y a une énorme demande. On n'a jamais été aussi mûr sur le sujet, et pourtant, jamais été aussi en demande de connaissances. On était des nouveaux, des débutants il y a 20 ans, 30 ans, et finalement, on réinventait la roue chacun dans son coin, parce que de toute façon, la connaissance n'existait nulle part. Là, maintenant, on s'y connaît tous un petit peu, mais par contre, on ne connaît pas totalement tout, puisqu'il se passe quelque chose d'important aujourd'hui, c'est qu'on a une accélération, ça a été dit tout à l'heure, des mutations à l'œuvre, mutations écologiques, énergétiques, toute la transformation aussi du monde du travail, des modes de vie, de la consommation, du commerce. Tout arrive en même temps. Donc non seulement on a une accélération des mutations dans tous les domaines, logement, énergie, etc., fonctionnement de la ville, mais on a aussi tout ça en même temps. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus piloter la ville et la redynamisation du centre-ville avec le rétroviseur comme avant, avec nos vieilles pratiques de on va donner de l'argent à l'association de commerçants, on va réhabiliter 4 logements avec des acquisitions foncières et on va faire une belle halle traditionnelle ou je ne sais quel terrain de boule ou activité culturelle. Là, on doit aborder les choses de manière beaucoup plus complexe parce que tout bouge tellement vite que c'est très difficile. D'où de cette difficulté, de cette complexité, un énorme besoin de se parler, de voir les pratiques ailleurs. Et quoi de mieux que l'Europe, où il y a une unité culturelle, il y a quand même malgré des distances de plusieurs milliers de kilomètres, on peut se reconnaître dans la problématique de la Suède, de l'Italie, du Portugal, et donc des similarités, mais dont on sait que forcément, la distance a fait que les pratiques sont différentes et qu'on a sans doute beaucoup de choses à apprendre des autres. Voilà. Et je crois qu'il y a cette humilité de se dire, pour chacun d'entre nous ici, c'en est la preuve, je ne sais pas, je suis tout seul, j'ai un problème, je ne sais pas quoi faire. Et je pense que peut-être quelqu'un dans la salle sait ce qu'il faut faire chez moi. Et inversement, peut-être que je pourrais lui aussi apporter des idées. Donc voilà, je pense qu'on a atteint un certain niveau de maturité, où on est peut-être un peu peut-être plus conscient de notre ignorance, mais plus curieux et plus à même de partager les bonnes pratiques, les datas, etc., etc. Et donc, un observatoire me paraît essentiel. Les enjeux sont complexes. Je terminerai là-dessus. Ça a été dit aussi très, très bien, je ne sais plus par qui, mais c'est vrai qu'on a des enjeux presque de l'ordre de l'impossible. Comment créer du logement, parce qu'il y a une forte pression, une forte demande, et en même temps, on a décidé, à juste titre, d'arrêter de s'étaler, donc de réduire l'étalement urbain et la construction sur les terres vierges pour protéger les générations futures avec les terres arables mais également les massifs naturels. Donc on doit construire sur la zone déjà bâtie, sur la zone déjà construite, des logements nouveaux. Donc compliqué parce que le foncier est rare, c'est beaucoup plus compliqué, c'est difficile. Après il faut désamianter, enfin, les terrains valent cher. Et donc il faut créer de l'offre de logements dans un espace contraint avec un foncier libre extrêmement faible. On a aussi une gentrification avec, pour plein de raisons, bien sûr le Airbnb, le tourisme, etc., puis la spéculation générale, plein de choses qui font que ben, les jeunes qui auraient pourtant envie d'habiter en ville, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, puisqu'on n'a jamais eu autant de la part de jeunes générations envie d'imiter les générations d'il y a trois générations, en fait, c'est-à-dire nos grands-pères ou arrière-grands-parents, hein, donc qui finalement étaient sur la place devant la fontaine, jouer aux boules et puis aller au bar, prendre un café. Finalement, les jeunes, c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui. Hein. Ils ne veulent pas de voiture, ils ne passent pas leur permis à 18 ans. Ils veulent travailler en ville, ils sont en converse, en trottinette et ils fuient les zones commerciales de leurs parents, ils fuient les zones d'activité. Les jeunes veulent vivre dans la ville des anciens. On a sauté deux générations comme les prénoms. Je ne sais pas si je suis clair. On voit, aujourd'hui, on voit dans les villes à la fois les anciens et puis les tout jeunes. Donc y a, ça, c'est très, très positif. Et là-dessus se greffe l'enjeu climatique. C'est que quel meilleur endroit que le centre-ville, que la ville, pour la sobriété foncière, pour réduire l'étalement urbain, pour réduire les déplacements, l'émission de gaz à effet de serre, pour créer du lien social, pour éviter l'exclusion de catégories sociales avec ce qu'on a connu il y a quelque temps, on l'a déjà oublié, les gilets jaunes. Finalement, quel meilleur moyen aussi de réduire sa facture énergétique en ayant moins de kilomètres à parcourir, à avoir plus de temps pour soi, pour ses enfants, pour son éducation, pour s'éveiller, pour se cultiver. Finalement, on est en train de se rendre compte que le centre-ville n'est pas seulement un objet urbain à défendre parce qu'il nous rappelle nos bons souvenirs d'enfants, c'est pas seulement le défendre parce qu'il représente notre identité patrimoniale, culturelle, etc., l'église et tout ça. C'est que c'est juste le meilleur endroit pour vivre dans un contexte d'enjeux climatiques, de dérèglement climatique, où il faut extrêmement faire attention maintenant à tout ce qui est de l'ordre de déplacement, tout ce qui est émission de gaz à effet de serre, tout ce qui est protection des terres naturelles, etc. Donc finalement, le centre-ville se défend non pas seulement pour des raisons sentimentales, patrimoniales, il se défend pour des raisons bien encore plus importantes que sont celles de la survie de notre système et de la société de demain qui forcément doit passer par plus de sobriété, plus de compacité, de concentration de l'urbain dans les villes bâties, avec bien sûr des difficultés. Ne pas construire en vertical des villes comme New York, c'est pas ça l'idée. Hein, bien sûr, garder des espaces privatifs assez grands, puisque les gens demandent un espace extérieur depuis le Covid, demandent des grands appartements, des duplex de volume, de la lumière. Donc bien sûr, il va falloir essayer de joindre les deux bouts, d'un côté un désir presque un peu individuel d'espace, d'air frais, de nature, etc. Et de l'autre côté, un besoin, un impératif de vivre ensemble dans un espace plus petit. Donc là, j'en appelle à la créativité des architectes, des urbanistes. Il y a des choses à faire. On a certainement beaucoup de choses à optimiser. Il y a énormément de choses d'habitudes à casser et de choses à réinventer. Voilà, merci.
Bravo. J'ai pas grand-chose à dire en plus. Vous dire seulement que c'était hyper intéressant, que le partage de bonnes pratiques va nous permettre de faire plein de choses ensemble. Remercier toutes les équipes de Centre-Ville en mouvement, parce que un grand bravo, ce qu'on a fait en peu de temps, c'est bien. Merci Alice de Segui, et puis merci à notre photographe en chef, Audrey. Merci aux membres du bureau, à notre président qui me fait confiance, et vraiment un très grand merci. Merci à Dominique Consil, à tout le monde, aux membres du conseil d'administration. Merci à vous tous et merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Au revoir.
Merci Pierre. Merci Pierre.